Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'avenir devrait s'éclaircir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. À une semaine du Brexit, les deux parties ont trouvé un accord. Des concessions de part et d'autre ont été faites, ce qui permet à chacun de se féliciter de cette entente économique. Analyse diplomatique dans ce journal. Et puis réaction de l'eurodéputée Karima Delli. Elle rappelle que le Parlement européen doit encore valider cet accord. Dans ce journal aussi, nous entendrons le député Jean-Luc Redzer, survivant du Covid-19 il y a 7 mois. Nous irons au Japon, où la troisième vague de l'épidémie est violente en ce moment. Et puis retour sur le discours de fin d'année du roi Felipe VI en Espagne. Il appelle au respect des principes moraux en plein scandale autour de son père Juan Carlos. 4 ans de rebondissement pour un accord annoncé le soir du réveillon de Noël. Le Brexit sera finalement encadré par un texte de près de 2000 pages. Bruxelles et Londres ont trouvé un terrain d'entente et s'en félicitent d'ailleurs ouvertement. L'Union européenne a tenu bon face aux exigences britanniques, Bertrand Galichet.
Après 10 mois de négociations sur un texte de 2000 pages, les signataires affichent la même satisfaction de part et d'autre. Impossible de dire qui a gagné ou perdu dans ce bras de fer, mais le front commun des Européens a pesé lourd dans la balance. Emmanuel Macron juge que l'unité et la fermeté européenne ont payé. Des mots employés à l'identique par l'eurodéputée et ancienne ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau. Et une ligne de conduite observée depuis le début par Michel Barnier, le négociateur européen rappelait encore il y a 2 semaines que l'Union ne sacrifierait jamais son avenir pour un accord susceptible de fragiliser le grand marché unique. Le président du Conseil européen, Charles Michel, lui aussi, a constamment fait valoir la solidarité entre les 27, assurant que l'unité des pays membres serait garantie sans qu'une feuille de cigarette ne les sépare jusqu'à la dernière seconde du processus. Une attitude indispensable dans cette négociation marathon qui a parfois ressemblé à une partie de poker.
Alors, qu'y a-t-il dans ce texte, dans cet accord ? Un compromis complexe sur la pêche d'abord. Les pêcheurs européens devront chaque année pendant 5 ans reverser à Londres 25% de leurs poissons dans les eaux britanniques. Quota renégocié ensuite au bout de 5 ans, ce qui agace les pêcheurs européens et notamment français en bord de Manche. Il n'y aura par ailleurs aucun droit de douane sur les produits britanniques qui arrivent dans l'Union européenne. Un engagement aussi à une concurrence équitable et puis un mécanisme pour arbitrer les différends. Beaucoup d'élus, on l'a entendu à l'instant, affichaient dès hier leur satisfaction face à cet accord entre Londres et Bruxelles. Mais ce n'est qu'une étape, voilà ce que veut surtout rappeler l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Karima Delli.
Pour l'instant, ce n'est qu'un accord qui est provisoire, puisque nous attendons l'accord des États membres et puis bien sûr l'accord du Parlement européen.
Donc vous êtes encore plutôt prudente.
Il est vrai que nous allons rentrer dans une période un peu, on peut le dire, délicate. Nous avons toujours plaidé pour un accord. Néanmoins, la temporalité, on peut un peu la regretter de cet accord, parce que l'application provisoire, de fait, du texte avant l'examen et le vote du Parlement, c'est un petit peu dommage. Le Parlement ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Nous allons examiner attentivement tous les points, aussi bien sur le volet des transports routiers, du transport aérien, que les règles du marché intérieur, et bien sûr la question de la pêche qui sera au cœur de nos préoccupations.
Autre passage indispensable pour que cet accord soit appliqué dans les jours qui viennent, il faudra une approbation du Parlement britannique à Londres. A priori, le Premier ministre Boris Johnson y sera soutenu. Le réveillon de Noël s'est déroulé étrangement hier soir en pleine pandémie de Covid-19. Comité restreint et masque recommandé en France. Aucun incident n'est signalé ce matin par les forces de l'ordre. Sur France Culture, nous avons choisi de rencontrer Jean-Luc Redzer. Le député Les Républicains du Haut-Rhin est un rescapé du Covid-19. Il a été le premier parlementaire officiellement atteint par le virus avec de premiers symptômes dès la fin du mois de février qui l'ont conduit à l'hôpital de Mulhouse. Le mois de mars. Placé en réanimation, plongé dans le coma pendant 4 semaines, il a fini par s'en sortir et il en tire plusieurs leçons, Rosalie Lafarge.
De ces longues semaines passées entre la vie et la mort, Jean-Luc Reitzer a bien failli ne pas revenir. Alors évidemment, ces fêtes ont une saveur particulière.
C'est vrai que Noël, je pensais pas forcément pouvoir le vivre et ma famille pensait pas pouvoir le vivre forcément avec moi. Et donc c'est vrai que c'est un peu une résurrection, quoi.
Le député de 68 ans l'assure, il va aujourd'hui très bien, même s'il a quelques séquelles.
C'est aussi une magnifique leçon de modestie et d'humilité que j'ai vécue. Parce qu'on imagine que tout va bien, qu'on est en pleine forme. Mais quand on doit apprendre les gestes quotidiens, ne serait-ce que pouvoir déglutir, ne serait-ce que pouvoir marcher même quelques pas et faire sa toilette soi-même, c'est aussi une belle leçon d'humanité.
Remis sur pied, Jean-Luc Reitzer a fait son retour à l'Assemblée en octobre sous les applaudissements nourris de l'hémicycle.
Merci mes chers collègues.
Il a profité du micro pour demander au Premier ministre de s'engager à ne plus fermer de lignes de service dans les hôpitaux, marqués évidemment parce qu'il venait de traverser.
J'ai été maire pendant 34 ans de ma commune, petite ville d'Alsace, Altkirch, où il y a un hôpital. Donc j'ai déjà connu, si vous voulez, du côté financier, du côté administratif, la lutte pour éviter des fermetures de services. Mais c'est sûr que de le vivre à l'intérieur, d'être le malade, on le voit différemment. Et c'est surtout à côté des chiffres, à côté des statistiques, il y a tout l'aspect beaucoup plus humain.
Terriblement reconnaissante envers ceux qui se sont occupés de lui, Jean-Luc Reitzer fait de la revalorisation matérielle et financière des soignants un combat qu'il espère là encore victorieux.
Rosalie Lafarge pour France Culture. La fin d'année covidée encore, avec des messes de Noël hier soir devant très peu de fidèles, de la place de la Basilique Saint-Pierre à Rome jusqu'à celle de la Nativité de Bethléem. En cette fin d'année 2020 encore, le Japon subit une troisième vague de Covid-19 plus forte encore que les deux précédentes. La faute peut être à la baisse des températures dans le pays. En tout cas, les médecins à Tokyo lancent un appel au secours, Karine Nishimura.
Le docteur Ozaki dirige l'association médicale de Tokyo et selon lui, le système hospitalier est au bord de l'effondrement.
Pendant les trois semaines à venir, je vous en supplie, après le travail, rentrez directement chez vous. C'est la dernière chance.
Tokyo, mégapole de 14 millions d'habitants, n'a en temps normal que 150 lits pour les patients en grande détresse. On pousse les murs, mais l'exercice a ses limites. Il faut vite stopper les infections, selon le médecin Masataka Inokuchi.
Il y a de très fortes tensions dans les hôpitaux qui accueillent les urgences. On en vient à refuser des patients.
Le gouvernement a traîné pendant des semaines avant d'accepter de stopper, à partir de lundi prochain seulement, une campagne d'incitation au tourisme à travers le pays, privilégiant clairement l'économie.
Le corps médical a déclaré l'état d'alerte maximal, mais une déclaration seule ne suffit pas.
Le corps médical aux abois sera-t-il entendu ? Le Premier ministre Suga, en chute libre dans les sondages, doit s'exprimer ce vendredi en fin de journée. La probabilité est faible, cependant, qu'il annonce des mesures drastiques.
C'était Karine Nishimura depuis Tokyo. Son discours était particulièrement attendu hier. Discours de Noël du roi d'Espagne, Felipe VI, touché par les scandales financiers liés à son père, le roi émérite Juan Carlos. Exilé depuis le mois d'août dernier aux Émirats Arabes Unis, ce dernier est visé par trois enquêtes judiciaires. Et c'est donc dans ce contexte que Felipe VI a réalisé hier soir la traditionnelle allocution télévisée. Il y a-t-il parlé de son père, Marie-Hélène Ballestero ?
Finalement, il en a parlé, mais de façon courte et évasive. En tout, le discours de Noël du roi Felipe VI a duré près de 13 minutes et la brève allusion au scandale financier lié à son père, moins d'une minute. Sans jamais le nommer directement, le monarque espagnol a appelé au respect des principes moraux et éthiques.
Déjà en 2014, lors de mon intronisation devant le Parlement, je m'étais référé aux principes moraux et éthiques que les citoyens nous réclament. Des principes qui nous concernent tous, sans exception, et qui sont au-dessus de toute considération, quelle que soit leur nature, y compris personnelles ou familiales. C'est ainsi que je l'ai toujours entendu, en accord avec mes convictions et ma manière de concevoir mes responsabilités comme chef d'État, dans l'esprit de réforme qui inspire mon règne depuis le premier jour.
Depuis la fuite de son père aux Émirats Arabes Unis en août dernier, Felipe VI ne s'était pas prononcé sur la question. Mais la multiplication des affaires ces derniers mois autour du roi émérite l'ont contraint à sortir de sa réserve. Mais comment a été perçue cette référence implicite à son père hier soir ? Tandis que les médias de droite se montrent satisfaits, à gauche, on critique cette timide allusion jugée totalement insuffisante. Beaucoup regrettent aujourd'hui un langage plus clair et direct.
Marie-Hélène Ballestero en Espagne pour France Culture. culture. Nous revenons maintenant en France métropolitaine pour quelques mots de météo. Les pluies seront légères ce matin, du centre jusqu'au nord de la France. Ailleurs, le temps oscillera entre nuages et éclaircies. En ce 25 décembre au matin, les températures sont assez homogènes et fraîches, 4 degrés en moyenne au nord de la Loire, entre 5 et 9 au sud.